Nous sommes à la rue Nationale, quartier grossiste. Textile, hein, et tout genre, quoi.
J'aime acheter pour le moment de l'achat. Acheter, c'est aussi se mettre en scène soi et donner une image de soi, etc. Et que pour moi, c'est pas forcément négatif. Hein. Je pense que chacun se donne une image. Les gens qui consomment équitable, économie solidaire, etc., aussi se mettent en scène. La consommation de masse existe, elle n'est pas nouvelle. Il y a des gens extrêmement brillants qui l'ont analysée, Baudrillard, dès les années 70, donc je ne vais pas réinventer l'eau tiède. Et je pense que la question du plaisir d'acheter, de se faire plaisir, je pense que ça peut toucher tout le monde. Voilà.
Non, on l'appelle vraiment bazar, parce que c'est le vrai mot, c'est bazar, c'est-à-dire ça contient pas mal de produits. Soit produits alimentaires, bon, petits produits alimentaires, et vous avez les confections prêts à porter, et vous avez une espèce de truc qui vient de la Chine, thermo, robot, etc.
Bienvenue à Belzins, un espace marchand dédié au discount en plein centre-ville de Marseille. Ici, vous y trouvez de tout, du sportswear, des tissus, des ustensiles de cuisine, des confections, des bijoux. Belzins est même devenu une marque de fabrique. Belzins Backdown, créé par le fameux Nasser Saber. La notoriété de Belzins dépasse les frontières de la ville, normal lorsqu'on sait que l'espace marchand de ce quartier populaire s'est construit avec l'extérieur. Une des caractéristiques de Belzins a été justement le commerce transnational. Bienvenue dans Marseille Discount, une émission qui vous raconte les pratiques marchandes de ce quartier. Marseille Discount en référence bien sûr au livre de la sociologue Véronique Manry que vous entendrez longuement dans cette émission. Un ouvrage photographique avec une analyse de terrain sur cet espace marchand mais aussi social et politique. Michel Peraldi, chargé des recherches au CNRS, sociologue, commence par nous conter l'histoire de Belzins.
Alors, si on reprend le fil historique des choses, hein, Belzins, c'est un quartier algérien, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des Algériens, mais ça veut dire que les Algériens y ont en quelque sorte installé leurs espaces communautaires et publics dans les années 20. Dans les années 60, on voit arriver sur Belzins des commerçants, grossistes en confection, juifs séfarades, qui viennent du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, juste un peu avant la décolonisation. Donc dans les années 58-60, qui s'installent sur ce quartier et qui créent des liens commerciaux avec le Sentier à Paris, avec d'autres espaces industriels au nord de la France et en Belgique, et qui donc créent le premier foyer en quelque sorte commercial. Dans les années 70, on voit arriver de grandes quantités de touristes algériens, moi je dis touristes volontairement parce que je pense que c'était des touristes, qui viennent passer le week-end à Marseille et qui viennent acheter sur Marseille tout ce qu'ils ne trouvent pas en Algérie, c'est-à-dire tout, des frigos, des objets de confection traditionnels ou pas, de l'électroménager, des pièces auto, des voitures, des bijoux, grand développement des bijouteries sur Belzunce. Donc des années 70 aux années 80, Belzunce devient le grand supermarché de l'Algérie, le supermarché de proximité, tellement il y a une proximité, non pas spatiale évidemment, mais sociale. C'est-à-dire que les Algériens viennent là, trouvent des gens de leur famille qui habitent sur Marseille ou dans la région, et donc par ces réseaux, trouvent l'argent dont ils ont besoin, parce que le change n'est pas possible, trouvent de l'hébergement, trouvent de l'accompagnement, etc. Donc il y a une véritable facilité des échanges entre Belzunce et Marseille et l'Algérie.
Donc Marseille était à cette époque une capitale euro-méditerranéenne commerciale, puisque les produits qui étaient vendus donc pour le sud étaient fabriqués dans le nord.
Ouais, absolument. Marseille est une place marchande, comme elle a toujours été d'ailleurs. Hein, je veux dire, c'est-à-dire que dans ce cycle du commerce algérien qui se développe à partir des années 70, c'est la plus ancienne tradition et probablement la plus belle tradition commerciale méditerranéenne qui se fait là. C'est-à-dire non seulement du commerce, mais je veux dire du commerce à tous les étages. C'est-à-dire qu'on trouve aussi bien du luxe et des choses de grand prix, comme certains bijoux, etc. Et puis on trouve des vendeurs à la sauvette, on trouve des objets volés, pas volés, on trouve toutes sortes de produits, et je dirais toutes sortes de niveaux de prix, toutes sortes de niveaux de commerce dans la rue, dans les boutiques. Donc tout, à peu près tout à cette époque-là, avant que la Chine débarque, tout à cette époque-là vient d'Europe, essentiellement du nord de l'Europe. Les tapis, par exemple, sont belges. Les bijoux, peut-être, sont fabriqués à Marseille. Une partie des bijoux sont fabriqués sur Marseille, peut-être. La confection vient de Paris, du Sentier, etc. Donc oui, ce sont des produits européens qui partent vers l'Algérie.
Alors comment on peut quantifier ce qu'a apporté cet espace marchand à la ville et dans son développement, dans son PIB? Est-ce que c'est possible de voir comment Belzunce a dynamisé aussi une ville entière?
Alors c'est très difficile à quantifier parce que c'est des échanges extrêmement fluides, extrêmement... Je veux surtout pas déclencher des paranoïas sur la souterranéité des choses, sur le côté clandestin, pas du tout. Simplement c'est des échanges tellement fluides que c'est très difficile à estimer. Il y avait eu une grosse enquête qui avait été commandée par la Chambre de Commerce au début des années 80. La fourchette était de 1 à 4 milliards, donc je veux dire, c'est imbécile de donner des fourchettes comme ça. Ce qui est sûr, c'est que... tout le centre-ville est irradié, moi je raisonne comme ça, tout le centre-ville est irradié à cette époque-là par ce commerce. Les Algériens qui viennent acheter, sur Belzunce sont capables de passer la Canebière, d'aller acheter dans les boutiques plus ou moins luxueuses de la rue Saint-Ferréol. Et contrairement à ce qu'ils disent aujourd'hui, les commerçants de la rue Saint-Ferréol ne refusaient pas de vendre à cette époque-là à des Algériens. Ils vont dans les supermarchés, etc. Donc le commerce algérien, qui représentait quand même, dans sa régularité dans les années 75, 40 000 personnes par week-end. C'est-à-dire qu'arriver d'Algérie, ça on peut le compter, puisqu'ils arrivent en avion ou en bateau. Donc arriver d'Algérie, entre 40 et 50 000 personnes, tous les week-ends, qui ne venaient que pour acheter. Donc eux... leur famille française en région PACA, etc., ça fait beaucoup de monde qui achetait. Donc on ne peut pas donner de chiffres et d'estimations, mais à mon avis, tout le centre-ville vivait de manière très intense de cette activité. Quoi.
Donc il y a un ralentissement qui est évalué à 40% de notre activité. Bah bon, les années précédentes, évidemment. Et en plus, il y a une autre raison que je pense que nous, avant, dans le passé, ou dans 3 ans ou 4 ans en arrière, on travaille avec le Maghreb, les gens qui viennent de l'Algérie, de la Tunisie, de Maroc. Maintenant, ces gens-là, on ne le voit pas. Premièrement. Deuxièmement, ils n'ont plus besoin de venir ici parce que c'est eux-mêmes qui ravitaillent directement à la ressource en Chine, un peu de partout dans le monde. Donc, ils n'ont plus besoin de nous. Thank you.
Alors que s'est-il passé pour que cela s'arrête, alors, ou en tout cas diminue?
Alors il s'est passé deux ou trois choses. Première chose qui s'est passée, c'est l'imposition des visas aux Algériens, qui a été une mesure vexatoire et discriminatoire à l'époque, dans les années 80, qui a donc rendu difficile le voyage en France, non pas impossible, mais difficile. Première chose. Deuxième chose, c'est la situation en Algérie et la dégradation de la situation et la guerre civile en Algérie qui a eu deux effets. Premier effet, c'est évidemment des effets sur les Algériens en Algérie qui ont eu du mal à voyager, etc., qui ont eu des problèmes financiers, économiques et sociaux. Deuxième effet, c'est qui n'est pas négligeable non plus, c'est sur les commerçants de Belzunce eux-mêmes, des pressions de type raquettes, etc., exercées par un certain nombre de groupes islamistes sur ces commerçants, qui ont fait qu'un certain nombre de commerçants algériens ont préféré partir, mettre la clé sous la porte, etc. Troisième phénomène qui n'est pas négligeable non plus, c'est que dans les années 80, un certain nombre de notables économiques ou politiques prennent conscience du phénomène et le perçoivent, à mon avis, de manière totalement erronée et totalement imbécile, le perçoivent comme un phénomène d'invasion, comme un risque portant sur le commerce et sur les espaces centraux et leur dégradation, et donc essayent de mettre en place des dispositifs pour contrer cette activité commerciale. Donc essayent de les déplacer, ce qui va être impossible, et essayent surtout d'empêcher qu'un certain nombre de commerces s'étendent dans l'espace qu'ils occupent sur Belzunce. Donc voilà, ces trois phénomènes cumulés expliquent que, à partir des années 80, 88-89, le commerce sur Belzunce commence à faiblir, quoi.
Ce qui s'est passé en fait, donc, c'est que
Véronique Manry, sociologue,
la mise en place du dispositif commercial donc autour de Belzunce s'est transformée. Donc au moment où le commerce, notamment avec le Maghreb à l'international, s'est effondré, il est parti ailleurs. Et il y a une partie de ce dispositif commercial, et quand j'ai une partie de ce dispositif commercial, c'est donc des acteurs, des commerçants, qui en fait, comme me disait un commerçant, je me suis relocalisée sur le local. Donc se relocaliser sur le local, c'est-à-dire qu'un certain nombre de commerçants qui avaient une certaine assise financière, les moyens de se retourner aussi, et puis une certaine vision à moyen terme au moins de ce qui est en train de se passer, sont passés, alors parfois en gardant les deux activités, parfois en basculant complètement, sont passés en fait du commerce à l'international avec le Maghreb à un commerce de détail ou de semi-gros, dans un certain nombre de marchandises à destination de clientèles locales. Et les clientèles locales, de par la composition sociale et de la ville et bon, aussi de la région, c'est plutôt des clientèles populaires, mais qui en même temps ont une envie de consommer, voire une frénésie de consommation dont on pourra parler après, et sur des produits qui ne sont pas des produits de première nécessité. Alors évidemment, il y a tout la partie du discount alimentaire, mais qui est quand même tenue par la grande distribution, par les ED, Lidl, etc.
Là que l'on retrouve plutôt vers les puces, enfin dans une autre...
Non, qu'on retrouve partout, hein. Il y a un Lidl rue Sainte, donc que ça touche plus largement que les quartiers populaires. Mais donc les commerçants, ils sont sur le même créneau que Lidl, sauf qu'ils sont sur des marchandises, pas de première nécessité, ce qu'on pourrait appeler du superflu, du sportswear de marque, du prêt-à-porter féminin de mode, quoi. Des baskets, voilà, c'est des choses pour la maison aussi. Il y a beaucoup d'articles pour la maison, des couverts, enfin, le linge de maison, la déco, des choses comme ça, quoi. Ou les bijoux fantasy, voilà. Donc ils sont passés sur ce créneau-là en se rendant compte que il y avait une très forte demande et qui n'est pas remplie entièrement, enfin en tous les cas qui n'est pas satisfaite entièrement par la grande distribution, les centres commerciaux. Ou les franchises type Zara, H&M, etc. Ils sont un peu sur le même créneau, enfin ils sont en complément, quoi. Même si après il y a des spécificités dans les modes d'approvisionnement, des petites spécificités dans le mode d'approvisionnement, d'abord parce qu'ils n'ont pas l'envergure de Zara, H&M ou Carrefour en termes de financiers et en termes de cash, mais aussi parce qu'effectivement ils proposent la façon de vendre n'est pas la même, il y a quand même une possibilité de... Enfin, la présence du marchandage, elle est encore très présente.
Oui, voilà, tu écris dans ton livre que tout commerçant reste marchand, enfin ici à Belzunce.
Oui, c'est ça la différence, c'est que c'est des marchands, donc ce qu'ils savent très bien faire, c'est acheter et vendre. acheter la marchandise qui va plaire, l'acheter au meilleur prix, avoir les meilleurs réseaux, voilà, accéder aux meilleures filières pour avoir les meilleurs prix pour acheter en gros. Et ils savent vendre parce que, non seulement parce qu'ils proposent des bons prix, mais ce n'est pas la seule raison, parce qu'à la limite, sur le bon prix, on peut aller à H&M, on est sur le même prix, franchement, on est sur la même gamme de prix que Belzunce ou Camille Pelletan ou même le marché Opus. Sauf qu'ils ont une façon de vendre différente qui correspond aussi à une attente de leurs clients.
La clientèle maintenant, c'est plus local. C'est plus des immigrés qui sont ici, donc qui viennent acheter pour leur mariage. Et puis aussi pas mal d'écoles de danse. Et ce qui a changé aussi, donc, c'est les fournisseurs. Avant, les fournisseurs, c'était à Lyon. C'était donc, 90% de fournisseurs de Lyon. Et maintenant, les fournisseurs sont des importateurs. Donc, c'est des importateurs de textiles chinois, puisque les fournisseurs de Lyon, ils sont tous fermés.
Le phénomène est assez complexe parce que le commerce continue, c'est-à-dire que Belzunce continue, et je crois qu'il l'est toujours aujourd'hui, continue à être un quartier communautaire, entre guillemets, c'est-à-dire un quartier dans lequel un certain nombre de gens d'origine algérienne, tunisienne, marocaine, syrienne, etc., trouvent les produits dont ils ont besoin, les produits culturels dont ils ont besoin. Il y a des magasins qui sont réputés dans le monde entier pour vendre certains types de basins africains, par exemple. Et des gens viennent d'Afrique acheter à Belzunce le basin qu'on ne trouve nulle part ailleurs, y compris en Afrique. Les gens viennent acheter dans certains magasins les 7 robes, enfin le tissu pour faire les 7 robes de la mariée en Algérie, parce que c'est là qu'on trouve les meilleurs tissus, etc. Mieux qu'à Constantine ou mieux qu'à Tlemcen, par exemple. Donc ça continue à être un quartier communautaire et ça vit. Certains bijoutiers continuent à être des fournisseurs de bijoux. Je dirais le commerce communautaire continue à exister, à se développer. Mais évidemment, avec beaucoup moins d'énergie que ce qu'il avait dans les années 80. Deuxième chose, un certain nombre de commerçants, très astucieux, ont compris que les populations qu'ils drainaient étaient des populations socialement ou économiquement fragiles et que donc on pouvait aussi développer le discount. Et donc Belzunce a inventé, sur Marseille en tout cas, a inventé le commerce discount. Donc le communautaire plus le discount a fait que Belzunce a continué à être un quartier commercial actif, tonique, dans les années 90 jusqu'aux années 2000. Ce qui disparaissait petit à petit, c'était bien, je dirais, le commerce transnational, c'est-à-dire ce commerce qui venait du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, qui, lui, lentement se recyclait. Soit les gens ne venaient plus sur Marseille, soit ils avaient ouvert d'autres routes et découvert d'autres routes. Donc sur Damas, sur Istanbul, qui a été en pleine expansion. Plus Belzunce baissait et dégradait, plus Istanbul montait, Alicante, Nador au Maroc, etc. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé.
Mais le discount, il y a une histoire du discount au niveau européen ou occidental. C'est pas l'histoire de Marseille, du rapport de Marseille au discount. En fait, c'est l'intégration d'une partie du dispositif marchand marseillais au dispositif du discount, qui est un dispositif international. Le discount, pour faire bref, c'est en fait soit de trouver de la marchandise avec le moins d'intermédiaires possible, c'est-à-dire au plus près des lieux de production, ce qui fait qu'on peut, de la marchandise bon marché, ce qui fait qu'on peut effectivement la revendre au détail de façon bon marché, Et la deuxième filière d'approvisionnement, c'est en fait être sur des réseaux du discount qui sont en fait des, comme les commerçants appellent ça, des coulures. C'est-à-dire comment on écoule en fait toute une partie des stocks de marchandises normales, voire même de marques, etc. Et qui en fait, une fois qu'ils sont passés dans les circuits traditionnels du commerce, notamment des franchises, de la grande distribution, une partie n'est pas revendue et on est sur des stocks, sur des temps de stocks très brefs. Donc cette partie de la marchandise, elle est réécoulée dans le circuit de la distribution par d'autres voies. Donc il y a des grossistes partout en Europe spécialisés là-dedans qui récupèrent la marchandise qui n'a pas été vendue dans les circuits de la grande distribution en général hein, ou des franchises internationales et qui ensuite les revendent par lot à des commerçants qui sont spécialisés donc dans ce type de marchandises.
Vous pouvez me décrire un peu ce que vous avez ?
Ah, le textile, ben, c'est du sportwear quoi. On vend des blousons, des chemises, des pulls. Et on fait de la femme, des jupes, des chemisiers, un peu de tout, quoi. Ouais.
Et vous vendez à qui ?
Ben, on vend aux forains et aux boutiques.
À Marseille ?
Oui, à Marseille, aux environs aussi.
Vous allez bien ?
Oui, ça va, je pense.
Et vous êtes installé depuis combien de temps ?
Ah, depuis 78. Ah oui, ça fait un bout de temps, déjà.
Vous avez vu le quartier évoluer, j'imagine.
Ah oui, absolument. Oui, c'est vrai.
Vous pouvez m'en parler un petit peu ?
Ben, je vous en parle, si vous voulez. Ben, le quartier, on l'a vu naître, si on veut. Il y avait très peu de grossistes. Aujourd'hui, nous avons énormément de Chinois. Et le commerce, il a baissé énormément. On est concurrencé par le produit chinois.
Et vous faites des produits chinois ?
Non, non, non. On importe de la Chine, mais des produits beaucoup plus sophistiqués que les qui vendent des Chinois. On a du mal à les concurrencer.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ont des prix trop bas. Ils ont leur système.
Moi, j'ai entendu dire que depuis la fin des années 90, le commerce avait baissé à Belzunce et que parce que notamment, il y avait un commerce vers, enfin, des échanges avec l'autre côté de la Méditerranée qui ne se faisait plus, en fait. Ouais.
On vient de parler sur ça, oui. Exactement, les Algériens ne viennent plus nous acheter parce que maintenant ils ont un marché à eux, ils achètent en Chine, en Turquie et en France, ils ne viennent pas beaucoup, hein, c'est très très peu, le marché a baissé énormément.
Donc du coup vous vendez à des Français, enfin à la France.
On vend au marché local, ouais. Exactement.
Et vous avez vu votre chiffre d'affaires baisser ou...
Ouais, de 10 à 15% de baisse.
En combien de temps ?
Bah, ça fait déjà une dizaine d'années, ça passe. On ne sait plus quoi faire.
Et pourquoi vous ne vous mettez pas à faire comme les Chinois dont vous parlez ?
On ne peut pas aller concurrencer aux Chinois parce que, je vous dis qu'ils ont leur système, tous leurs marchandises viennent d'Italie. À mon avis, c'est une mafia. La vérité, c'est entre eux que ça se passe, on ne peut pas les concurrencer. Même si on apporte les mêmes articles, ils sont toujours 50% moins chers que nous.
Qu'est-ce que vous pensez de ce quartier ?
Qu'est-ce que j'en pense du quartier ? Ben, je ne sais pas, moi, s'il va évoluer ou il va rester comme ça. C'est pas la joie hein, pour le quartier, pour aujourd'hui, hein, je ne sais pas demain. Après les élections, peut-être ça va changer, parce que là, avant les élections, il y a toujours une crise. Espérons que ça va changer.
Vous allez voter ?
Bien sûr. Pour qui, je ne sais pas.
Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes commerçante dans le quartier ?
Oui.
Vous pouvez me dire ce que vous faites ?
Prêt à porter.
Comme ici ?
Comme ici, oui.
Donc c'est grossiste ?
Grossiste, oui.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du commerce à Belzunce ?
Pas du tout, ça n'a rien qui va. Il n'y a absolument rien qui va. On est entouré que de Chinois, donc on est... Voilà.
Ah, les Chinois, ça revient.
Ah, les Chinois, c'est pas que ça revient, ils sont là, ils sont bien là. Et on est vraiment... en position de grosse faiblesse.
Comment vous expliquez ça ?
Ben, j'explique que depuis qu'ils sont là, nous, personnellement, on ne travaille plus.
Et vous pensez que c'est les Chinois ?
Oui.
Parce qu'il y a aussi le commerce, le type de commerce qui a changé.
Qui a changé, d'accord, mais on a beaucoup de nos clients qui vont acheter directement chez eux, et ils vendent du pas cher du tout. Donc nous, ça nous baisse complètement notre chiffre d'affaires. Voilà.
Et vous vendez les mêmes produits ?
Non, on a des produits qui sont à peu près similaires. Et donc, voilà quoi. Donc, ça, ils ont du jean, on fait du jean. Ils vendent du jean à 5-6 euros. 5-6 euros, nous, on n'arrive pas. Donc, voilà quoi. C'est très difficile.
Vous, vous êtes installé depuis combien de temps ?
Ça fait 10 ans.
10 ans ?
Oui.
Donc vous n'avez pas connu la période faste du quartier, parce qu'il y a eu
non.
une période
non.
un peu avant votre installation.
Non. Voilà.
Et vous voulez bien me décrire un petit peu ce que vous vendez ?
Mais voilà, du prêt-à-porter femme et du prêt-à-porter homme. En gros, aux boutiques qui viennent nous acheter.
C'est-à-dire quelle quantité ?
Oh ben ça dépend, hein. Ça dépend du client. Hein. Il y en a qui va vous prendre un petit peu, il y en a qui vont vous prendre beaucoup, donc ça dépend de la demande qu'ils ont, quoi. C'est tout. Voilà.
Là, par exemple, la dame, elle est en train de choisir pour une boutique ?
Oui, je pense, oui. Oui, parce qu'on ne vend pas au détail, donc...
ce qu'on a vu aussi se faire et qui n'est pas mince, c'est que les grossistes, donc, qui étaient véritablement le foyer économique du quartier, les grossistes en confection juifs du quartier étaient non seulement les grossistes au sens strict, fournissaient la marchandise, mais ils étaient les banquiers de la plupart des commerçants, banquiers informels, de la plupart des petits commerçants algériens sur le quartier. Donc c'était pas rien. Et ils étaient aussi, je crois... Enfin, je crois, non, j'en suis sûr, mais ils étaient aussi, en quelque sorte, des intermédiaires politiques entre les mondes politiques locaux, la ville au sens notabiliaire du terme, et puis, justement, ces petits mondes de commerçants, ces mondes communautaires. Donc, ces grossistes ont commencé à voir que le commerce périclitait, ils n'étaient pas fous, donc eux aussi ont commencé à partir, ce qui a été un impact assez fort sur la vie du quartier. Et ils sont partis de deux manières. Ils sont partis dans les quartiers nord pour installer des grands entrepôts. Et donc, ensuite, les camions, les bus venaient directement dans leurs entrepôts dans les années 2000. Soit ils sont carrément partis ailleurs. Moi, j'en ai vu, j'en ai rencontré, qui sont installés aujourd'hui à Bizerte, en Tunisie, qui sont installés à Alicante, en Espagne. Donc, ils sont, eux aussi, partis. Et partant, ils ont déclenché... à leur manière, un mouvement spéculatif sur le quartier. Puisqu'en partant, ils ont vendu leur commerce dans une période où la mairie lançait les opérations de réhabilitation, de rénovation, etc. Et donc, ils ont été les acteurs principaux du mouvement de spéculation dont ce quartier a été l'objet. Ce qui a encore donné une couche de fragilité sur ces commerces. Il est évident que le commerce sur Belzunce ne tient que parce que le mètre carré n'est pas cher et que parce qu'on est dans un quartier dégradé. Donc sinon, ce type de commerce va dans des espaces où le mètre carré est moins cher.
Thank you.
quelque part, Marseille a raté le coche d'être capitale euro-méditerranéenne, enfin place marchande euro-méditerranéenne.
Oui, oui, complètement. Marseille a totalement loupé ce coche-là. On peut penser que ce sont des choix politiques, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'il est raisonnable de dire non, Marseille ne veut pas être cette capitale euro-méditerranéenne du commerce transnational, c'est le droit des acteurs économiques, mais il faut proposer à ce moment-là, en contrepartie, des projets qui soient aussi producteurs et aussi toniques économiquement que ce que ce commerce-là a été. Et moi, je pense qu'aucun des projets qui ont été mis en place n'ont le même impact, et y compris n'ont le même impact d'implication de populations qui sont des populations socialement fragiles, etc. Donc non, Marseille a loupé le coche et n'a pas, à mon avis, proposé d'alternative.
Alors peut-être parce que ces échanges-là, ces commerces-là étaient considérés comme un petit peu informels, donc pas vraiment dans la légalité, etc. Alors que finalement, peut-être que l'État n'était pas tant en dehors de ces échanges-là que ça.
Comment dire, on a à Marseille une élite, on va dire, qui est une élite à la fois politique, sociale et économique, et qui est une élite petit-bourgeoise, je le dis vraiment comme je le pense, et qui a y compris des goûts petit-bourgeois. Et du point de vue du goût petit-bourgeois, ces commerces font tâche, sont sales, dégradés, dégradants, etc. Et donc on a un grand mépris pour ce type d'activité, pour ce type de commerce. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, l'impact économique de ce commerce est tout aussi important, quelle que soit la qualité, entre guillemets, des objets vendus, des activités. Par ailleurs, moi je pense, parce que je travaille là-dessus, je pense que les commerces sont toujours en évolution. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que sur le commerce communautaire de Belzunce, discount, se greffe, comme on le disait tout à l'heure, des choses plus créatives, des productions plus inspirées, je dirais, du point de vue d'une mode ethnique, etc., ce qui se développe aujourd'hui sur Belzunce. Le paradoxe, c'est qu'il n'y a plus d'accrochage, il n'y a plus d'embrayage sur un commerce existant, quoi. Donc on aurait pu penser que petit à petit, ce commerce se structure, prenne place dans la ville, trouve ses marques et je dirais presque sa mode, ses créateurs, son élégance, etc. On peut penser que tout le commerce est évolutif en permanence, donc il aurait évolué aussi sur la ville et donné des choses certainement très intéressantes, à mon avis.
Donc le client, il préfère aller à la ressource de faire travailler un intermédiaire. Parce que nous, on est intermédiaire, on est médiateur de vente.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la mise en rayon extrêmement aseptisée, on n'est pas dans de l'étiquetage systématique du prix. Et quand on l'est, parce que ça c'est de plus en plus fréquent quand même, l'étiquetage des prix, mais les clients savent qu'il y a toujours moyen de discuter un peu, on peut toujours discuter, voire payer en plusieurs fois, ou avoir un petit prix si on a pris plusieurs choses. Enfin, donc il y a ça. Et il y a aussi cette mise en scène, ce dont je parle dans le livre, et qui est quand même extrêmement frappante quand on se promène dans ces endroits-là, marché aux puces, c'est une mise en scène de l'abondance. C'est-à-dire que tout est toujours proposé en abondance, en tas, on n'est jamais avec des piles, bien que certains commencent à faire des boutiques très avec des piles, etc. Mais ce qui plaît aux gens, c'est que ça déborde sur le trottoir, c'est qu'on fouille, donc on donne aussi de sa personne pour acheter, donc voilà. Et que du coup, l'acte d'achat, c'est pas uniquement un acte de consommation, c'est aussi un acte où, si on donne de ça, où on s'engage personnellement, parce qu'on fouille, parce qu'on discute le prix, etc. Et le commerçant, il fait la même chose. Il donne de lui, il n'est pas juste là dans sa boutique. Il y a toujours de l'interaction et de la relation sociale dans ces espaces-là pour acheter. On se découvre un peu, on dit qui on est, on dit où on habite, d'où on vient, etc. Et on discute. Voilà, on discute beaucoup autour de l'acte d'acheter, autour de l'achat, et on discute pas que du prix. Même si toute la discussion fait partie d'une espèce de mise en scène aussi, à la fois du commerçant et à la fois aussi du client.
Et vous savez très bien. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans une boutique, quand ils trouvent le même langage que la leur. Surtout nos parents, nos grands-parents, les Maghrébins qui sont venus avec la France, ça fait longtemps qu'ils sont là. Jusqu'à maintenant, ils sont, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas assimilés, mais ils sont assimilés, mais la langue, ça pose des problèmes encore. Parce que, bon, l'étroit à 8 euros. Donc, comment on peut faire avec eux? On parle avec eux. Quand ils voient le prix affiché, ils ont honte de parler. Ils sont toujours, ils gardent toujours certaines timidités. Donc, quand ils ne voient pas combien ça, donc il y a une communication avec lui. Et ces gens-là, ils aiment la communication. Ils n'aiment pas rentrer, par exemple, à Carrefour, ils regardent, ils prennent, ils mettent dans le chariot parce qu'ils ne savent pas lire qu'est-ce qu'il y a ou comment il est le prix. Et vous avez vu, vous avez constaté l'âge de nos clients, pratiquement. Tous plus de 50 ou 60 d'années. Vous voyez, donc ils préfèrent parler leur langue.
Je pense que le cours Belzunce, la rue d'Aix, l'avenue Camille Pelletan, voilà, ce secteur-là est très lié et complètement complémentaire du centre-bourg, de la rue Saint-Féréol, de la rue de Rome. Voilà. On a là un grand espace de l'hypercentre qui est un espace marchand. Même la différence, c'est qu'effectivement, pour Belzunce, rue d'Aix, etc., on a effectivement, dans les commerçants, une plus grande proportion de gens immigrés ou d'origine étrangère. Voilà. Après, il y a des classes moyennes blanches, comme tu dis, qui viennent dans les espaces dont je parle. Après, effectivement, les trabendistes, on les voit sur le cours, donc ça rajoute de la couleur, on va dire. On les voit sur le cours parce que il y a un certain nombre de cafés, d'hôtels, etc., qui fréquentent. Ils achètent plutôt, effectivement, à l'intérieur de Belzunce, dans les petites rues, et surtout dans les rues du tapis vert, voilà, qui sont le petit sentier marseillais, donc qui sont en fait le prêt-à-porter de gros. Hein. Donc ils achètent plutôt là parce qu'ils achètent plutôt en demi-gros. Donc voilà. On les retrouve aussi sur un peu le nord de Belzunce, dominicaine, nationale, etc. Parce que là il y a du détail et du demi-gros, d'électroménager, de tapis, de choses comme ça. Voilà. Et effectivement la clientèle locale en général vient moins à l'intérieur du quartier parce que les commerces ne sont pas forcément à sa destination. En termes de produits, le prêt-à-porter, tout le discount, le prêt-à-porter, les cosmétiques, le sportswear, etc. C'est beaucoup moins à l'intérieur de Belzunce, même si aujourd'hui le discount est en train de miter aussi Belzunce parce qu'il y a des commerçants qui se reconvertissent parce que c'est beaucoup plus rentable de faire du discount. D'abord parce qu'on peut faire un peu de détail, mais surtout on peut faire du demi-gros. Notamment dans les produits cosmétiques, le produit ménager, etc. Ceux qui sont dans Belzunce ont souvent une boutique de détail, mais ils ont aussi une boutique où ils font du demi-gros. Et là, ils approvisionnent en fait un petit peu les trabendistes, mais pas énormément parce que les trabendistes algériens notamment viennent de moins en moins à Marseille. Mais ils approvisionnent surtout tous les forains du sud de la France. Moi, il y en a un que je connais bien, qui a un gros chiffre d'affaires. Et je vois les gens qui vont chez lui, les commerçants qui viennent acheter en demi-gros, et je les retrouve. J'en ai revu un l'autre jour au marché de la Joliette. Je les vois aux puces, je les vois au Prado. Et je vois des camionnettes qui arrivent du Var, des Alpes-Maritimes, etc. En fait. Et quand je discute, c'est tous des forains. Ils font les marchés de tout le sud de la France.
Bienvenue chez Loubès. C'est vrai que je sais qu'on peut trouver les mêmes produits
que je fais dans d'autres quartiers de Marseille à différents, à des prix beaucoup plus excessifs que ça. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une volonté de ne pas pratiquer des prix chers, vraiment. Je sais que j'ai envie que ça soit, que l'on reconnaisse comme Loubès comme étant une boutique de créateurs, d'artisanat du commerce équitable, de création africaine, de... Une boutique où on ne se prend vraiment pas la tête, où on est chez soi, il y a un canapé, les gens peuvent venir. C'est pas... Moi, je dis aux gens, je vais dans des boutiques, je ne vais pas spécialement acheter, mais venez découvrir les objets qu'il y a chez Loubès, parce que ça permet vraiment de voir ce qui se fait de l'autre côté.
En même temps, je pense qu'il faut bien distinguer la fonction commerciale de Belzins, qui donc s'adresse, comme je disais, à des clientèles très larges, à la fois en termes géographiques, donc Marseille, régionale, voire d'autres régions, puisqu'il y a des week-end shopping qui se font à Marseille, notamment, moi, ce que j'ai vu, par exemple, il y a des associations ou des centres sociaux à Toulouse ou à Saint-Etienne qui affrètent des bus pour des week-ends shopping à Marseille, où on se fait Belzins, le dimanche, le marché aux puces, etc. Donc il y a cette fonction commerciale-là, plus la fonction bien évidemment commerciale du commerce avec le Maghreb. Et après, il y a une fonction de Belzins en tant que quartier résidentiel. Donc la fonction résidentielle, effectivement, il y a d'anciennes familles qui sont là depuis longtemps, qui sont issues des différents courants migratoires. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup de originaires d'Algérie, mais avec des familles qui sont là depuis deux ou trois générations. Il y a des vieilles familles algériennes, kabyles notamment, qui sont de Belzins, belzinciennes, on pourrait dire, et qui sont en voie d'accession, voire qui accèdent aux classes moyennes déjà, qui appartiennent aux classes moyennes. Il y a donc une autre catégorie de résidents qui sont des gens dans des situations, une classe sociale dans une situation beaucoup plus paupérisée, des gens pauvres qui vivent dans des hôtels meublés ou dans des conditions extrêmement précaires. Et puis il y a ce qu'on appelle, parce qu'on n'arrive pas à trouver, les nouveaux habitants qui sont... qui appartiennent à une classe, on va dire une petite classe moyenne intellectuelle. On pourrait dire que c'est des petits bobos à l'échelle marseillaise. Donc c'est pas les bobos parisiens, c'est plus des gens intermittents du spectacle, travailleurs sociaux, instits, étudiants, beaucoup. Voilà, qui sont venus s'installer depuis à peine une dizaine d'années. S'installer. Qui sont venus occuper en fait les appartements réhabilités dans le cadre de la réhabilitation de Belzins. Et c'est là que les catégories sociales qui ont été favorisées aussi pour occuper ces logements. Et effectivement, et donc là on est plus sur des catégories sociales qui sont effectivement beaucoup plus préoccupées de commerce équitable, d'économie solidaire, voilà. Et qui du coup effectivement tentent de promouvoir et appartiennent à des réseaux associatifs ou militants qui discutent de ces choses-là. Donc ils sont très liés, par exemple, avec des commerces, avec un ou deux commerces qui se sont installés sur le quartier, qui sont des nouveaux commerces. Donc à nouveaux habitants correspondent des nouveaux commerces, même si c'est extrêmement marginal aujourd'hui. Et effectivement, mais avec des préoccupations, on va dire, de consommation qui sont extrêmement éloignées de celles des clientèles qui fréquentent le quartier. Puisque les clientèles qui fréquentent le quartier, leur préoccupation première, c'est d'abord de trouver des bas prix. C'est de trouver des produits qui leur correspondent, donc en termes de goût aussi, d'esthétique, de que ce soit dans la mode ou dans le prêt-à-porter ou dans l'équipement de la maison. Et qui effectivement n'ont pas cette préoccupation-là, en tous les cas dans sa grande majorité, du commerce solidaire, etc. C'est vrai que les gens qui viennent acheter sur le cours Belzins, ils ne se préoccupent pas de savoir qui a fabriqué les baskets Nike ou pourquoi les t-shirts sont à 1 euro. Voilà. Mais en même temps, moi je vois quand même beaucoup de nouveaux habitants qui ont cette préoccupation d'économie solidaire, etc., mais qui ont... Donc, qui sont une petite classe moyenne intellectuelle, mais qui n'a pas forcément des moyens financiers énormes. Et en même temps, là aussi, moi, j'en vois quand même plein à acheter dans le quartier. Parce qu'après, il y a, comme tout un chacun, il y a un principe de réalité qui est le principe de la réalité financière. Et qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, l'économie durable, le commerce solidaire, ça coûte plus cher que le discount. Voilà.
Merci Véronique.
Vive la solidarité entre le peuple. Vive la solidarité entre le peuple. Ivoirien, Burkinabé, Mauritanien, Sénégalais, Guinéen, Ghanaien. Vive la solidarité entre le peuple.
Pas des philanthropes, le commerçant. Ça se saurait hein, depuis le temps, depuis Aristote. Donc je veux dire, c'est pas des philanthropes. À partir du moment où des conditions économiques, sociales et spatiales se dégradent, les commerçants sont comme les oiseaux migrateurs. Ils s'en vont, ils vont ailleurs. Ils vont faire leurs affaires ailleurs et c'est tout à fait normal. Donc je veux dire, c'est pas aux commerçants à aller chercher les partenaires de leur activité. Les commerçants, les partenaires de leur activité sont les clients, point. Je pense que c'est au contraire aux acteurs politiques locaux, aux acteurs locaux, ceux qui ont à cœur, soi-disant, enfin qui devraient avoir à cœur que leur ville vive, c'est à eux à aller chercher les commerçants, c'est-à-dire c'est à eux à faire la démarche de comprendre de quoi les commerçants ont besoin, de qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné pour qu'ils restent, pour qu'ils s'installent dans cette ville. Les commerçants sont des nomades dans le fond de leur activité, ils sont obligés d'ailleurs.
Merci Michel Peraldi.
De rien.
C'était Marseille Discount, une émission qui interrogeait l'espace marchand de Belzunce. N'hésitez pas pour en savoir plus à découvrir le livre de photographie de Véronique Manry, à partir duquel nous avons tiré le nom de l'émission Marseille Discount. Vous pourrez très vite réécouter cette émission sur notre site www.grenouille888.org. Merci également à Marine Richard pour sa collaboration. La semaine commerciale continue sur la grenouille, retrouvez demain à 18h Hyper Gagnant, une fiction de Xavier Thomas.